VOA Afrique.
Bonjour, au micro Idrissa Sidoudia, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. En Haïti, le directeur général de la police nationale, Léon Charles, a annoncé hier soir à la télévision que 4 mercenaires impliqués dans l'assassinat du président Jovenel Moïse ont été tués et 2 autres arrêtés. Le président Moïse a été assassiné par un commando armé en pleine nuit à son domicile et l'état de siège décrété hier dans le pays. Dans une déclaration adoptée hier soir à l'unanimité, les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont demandé que les auteurs de cet assassinat soient rapidement traduits en justice pour ce crime odieux qu'ils condamnent dans les termes les plus forts, précise leur déclaration initiée par les États-Unis. Toutes les parties sont appelées à rester calmes, à faire preuve de retenue et à éviter tout acte qui pourrait contribuer à accroître l'instabilité. Le Conseil de sécurité exprime aussi son soutien indéfectible au dialogue. Nous reviendrons sur Haïti avec John Linden, Abdourahmane Dia et Nanit Dalani. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage et qui devait être arrêté mercredi avant minuit, s'est finalement constitué prisonnier juste avant. Des centaines de partisans de M. Zuma, armés de fusils et de lances, s'étaient rassemblés devant son domicile pour empêcher son arrestation, mais a écrit sa fondation sur Twitter, le président Zuma a décidé de se conformer à l'ordre d'incarcération. En République démocratique du Congo, le militant de Lucha, Parfait Mouhani, a été arrêté et détenu à la prison centrale de Goma. Au Nord Kivu a annoncé hier son mouvement citoyen. Il avait accusé la fondation de l'épouse du président Félix Tshisekedi de détournement d'une partie des vivres destinés aux sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo qui avait dévasté la ville en mai. RDC toujours, l'armée congolaise a annoncé hier avoir détruit 5 camps des ADF en Ituri où ils sont accusés d'avoir massacré des milliers de civils. En ce moment, les ennemis sont en débandade, les dégâts sont énormes, a dit son porte-parole, le lieutenant Jules Ngongo. Des hommes armés voleurs de bétail, appelés bandits dans le nord-ouest du Nigeria, ont tué 18 personnes dans un village de l'état de Katsina, a annoncé hier à l'AFP la police locale. Selon d'autres sources locales, cette attaque était une punition contre les villageois qui avait refusé de coopérer avec les groupes armés de la région. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a dévoilé mercredi la composition du nouveau gouvernement après les récentes législatives, reconduction des principaux ministres sortants à l'exception de ceux des affaires étrangères et de la justice. Aux affaires étrangères, Sabri Boukadoum est remplacé par Ramtane Lamrama. Lamamra, l'ex-haut fonctionnaire de l'Union africaine et des Nations unies, avait déjà occupé cette fonction sous le président déchu Abdelaziz Bouteflika. L'OMS a mis en garde hier contre une levée trop large des restrictions sanitaires mises en place pour tenter de juguler la pandémie de COVID-19, y compris dans des pays avec un taux de vaccination élevé. Le monde a franchi le seuil tragique des 4 millions de morts du COVID-19, a également annoncé l'OMS. 3 roquettes ont visé tôt ce jeudi l'ambassade américaine en Irak, au terme d'une journée marquée par plusieurs attaques ou tentatives d'attaque contre des intérêts américains attribués aux pro-iraniens, dont une tentative d'attaque au drone déjoué en Syrie voisine. Ici aux États-Unis, les secours ont décidé de mettre fin aux recherches de survivants dans l'immeuble qui s'est effondré le 24 juin en Floride, a annoncé hier la maire du comté de Miami-Dade, où s'est produite la catastrophe qui a fait 54 morts selon un dernier bilan. Évincé des grands réseaux sociaux depuis l'assaut meurtrier du Capitole, l'ancien président Donald Trump a déposé hier des plaintes collectives contre Facebook, Twitter, Google et leurs patrons en les accusant d'être responsables d'une censure illégale inconstitutionnelle. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie Idrissa Sidoudia. Restez à l'écoute pour la suite de nos informations. La suite de nos informations. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU se penche aujourd'hui sur le grand barrage de la Renaissance sur le Nil, le Soudan et l'Égypte affirment que l'Éthiopie a entamé la deuxième phase de remplissage du réservoir. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le Caire et Khartoum ont déclaré avoir été informés par Addis Abeba que la deuxième phase de remplissage avait commencé. Le ministère égyptien de l'irrigation a exprimé son rejet ferme de cette mesure unilatérale et le ministère soudanais des Affaires étrangères lui a emboîté le pas, qualifiant cette décision de risque et de menace imminente. Addis Abeba n'a pas réagi à ces affirmations. Le méga-barrage, qui devrait être le plus grand projet hydroélectrique d'Afrique, a provoqué une tension diplomatique de près d'une décennie entre Addis Abeba et les pays situés en aval, l'Égypte et le Soudan. L'Éthiopie affirme que le projet est essentiel à son développement, mais le Caire et Khartoum craignent pour l'accès à l'eau de leurs citoyens. Les deux gouvernements ont exhorté Addis Abeba à signer un accord contraignant sur le remplissage, appelant le Conseil de sécurité de l'ONU à se saisir de la question. Les États-Unis, l'Union européenne et l'Union africaine ont déjà tenté des médiations sans succès. La réunion du Conseil de sécurité de l'ONU se tient aujourd'hui à la demande de la Tunisie au nom de l'Égypte et du Soudan. Mais l'ambassadeur de France auprès de l'ONU a déclaré la semaine dernière que le Conseil lui-même ne pouvait pas faire grand-chose à part rassembler toutes les parties et les encourager à reprendre les négociations. La Tunisie a également soumis un projet de résolution appelant l'Éthiopie à cesser le remplissage du réservoir.
En Haïti, le président Jovenel Moïse a été assassiné par un commando armé à son domicile. L'état de siège décrété dans la foulée par le premier ministre par intérim plonge davantage le pays dans la crise. Précision de John Linden.
Nous avons décidé de déclarer l'état de siège dans tout le pays, a déclaré Claude Joseph dans un discours en créole, octroyant ainsi des pouvoirs renforcés à l'exécutif. Il a promis que les assassins de Jovenel Moïse paieraient pour ce qu'ils ont fait devant la justice. Le président a été assassiné chez lui par des étrangers qui parlaient l'anglais et l'espagnol et qui ont attaqué sa résidence, a-t-il affirmé. L'ambassadeur haïtien aux États-Unis, Boschit Edmond, précise que le commando était composé de mercenaires professionnels et s'est fait passer pour des responsables de l'agence américaine anti-drogue et pourrait avoir déjà quitté le pays. L'épouse de Jovenel Moïse, blessée, va être évacuée à Miami pour être soignée, a-t-il précisé. Le président américain Joe Biden a condamné cet acte odieux, disant les États-Unis prêts à apporter leur aide. L'Union européenne s'est inquiétée d'une spirale de violence par la voix de son chef de la diplomatie, Joseph Borrell, et Paris a dénoncé un lâche assassinat. Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui se réunit en urgence aujourd'hui, s'est dit profondément choqué par cet assassinat.
Ici aux États-Unis, Eric Adams est désormais quasi assuré de devenir le deuxième maire noir de l'histoire de New York. Ancien policier, il est connu pour avoir combattu les discriminations raciales à l'intérieur des forces de l'ordre. Claire Morin-Gibourg.
Les résultats de la primaire doivent encore être définitivement confirmés, mais selon les derniers chiffres publiés par le Bureau des élections de New York, Eric Adams, actuel maire du district de Brooklyn, a emporté le scrutin extrêmement serré. Il devance Catherine Garcia de très peu et Madame Garcia a déjà reconnu sa défaite. New York, capitale économique des États-Unis, est un bastion démocrate et le vainqueur de cette primaire est donné gagnant pour l'élection générale de novembre où il affrontera le républicain Curtis Sliwa. Eric Adams devrait ainsi succéder au très impopulaire Bill de Blasio et devenir le deuxième maire noir de cette ville de 8,5 millions d'habitants après David Dinkins au début des années 90. Ancien capitaine au sein de la police, M. Adams a été élu en 2006 au Sénat de New York, où il sera réélu trois fois. En 2013, il a été élu maire de Brooklyn après avoir fait de la lutte contre les inégalités raciales son programme phare.
La Minute Éco, John Linden.
Les bons du Trésor lancés par le gouvernement de la RDC et l'OCIG sur le marché financier interne ont permis d'élever un peu plus de 12 millions de dollars. Selon Financial Afrique, trois soumissionnaires se sont partagés les titres financiers de 3 mois d'échéance au taux d'intérêt de 7%. Le ministère des Finances indique que le gouvernement prévoit également d'élever 40 milliards de francs congolais sur le marché financier interne au cours de ce mois de juillet. La Sonatel, la Société nationale des télécommunications du Sénégal, va procéder le 16 juillet prochain au paiement des intérêts semestriels de son emprunt obligataire dénommé Sonatel 6,50% 2020-2027 pour un montant de plus de 3 milliards de francs CFA. C'est ce qu'ont annoncé les dirigeants de cette société de téléphonie basée à Dakar. Fondé le 23 juillet 1985, le groupe Sonatel est actuellement présent dans 5 pays en Afrique de l'Ouest. Après moult tensions et revirements, 131 pays représentant 90% du PIB mondial se sont engagés à taxer de manière plus équitable les multinationales. Cet accord, négocié le 1er juillet sous l'égide de l'Organisation de développement et de coopération économique, y compris la Chine et l'Inde, n'attend que la validation des grands argentiers des pays du G20. Ils se réunissent vendredi et samedi à Venise.
Merci John, et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. L'Angleterre a rejoint l'Italie en finale de l'Euro en renversant la révélation danoise 2-1 après prolongation. Hier au stade de Wembley à Londres, après l'ouverture du score de Mikkel Damsgaard à la 30e, sur un splendide coup franc direct, les Anglais ont répondu en poussant Simon Kadjer à marquer contre son camp à la 39e. Puis en prolongation, Harry Kane a marqué en 2 temps sur un pénalty. Les Anglais disputeront leur première finale d'un tournoi majeur depuis leur victoire lors du Mondial 1966, leur première dans un Euro face à l'Italie dimanche. Pour soulever un premier trophée depuis 55 ans, ils devront effacer un autre de leurs fantômes avec cette nationale qu'ils n'ont jamais battue dans un grand tournoi en 4 confrontations. Sur le continent, en République démocratique du Congo, la saison sportive 2020-2021 est à vite oublier puisqu'elle a été loin de toute attente. Notre correspondant à Kinshasa, Valdo Simon Yamba, nous en dresse le bilan.
Clôturée les 30 juin dernier, la saison sportive 2020-2021 est l'une des pires des 10 dernières saisons que la République démocratique du Congo ait connue, tant en termes de résultats en interne que sur les continents et voire sur les plans administratifs. Tenez les Léopards absents de la prochaine CAN pour n'avoir pas réussi à obtenir leur ticket qualificatif à cette compétition, et ce, malgré les forcings dans les dossiers de la double identité du joueur Kanga qui opposait la RDC au Gabon. Autre contre-performance, c'est aux interclubs de la CAF. Mani Maignan sorti dès les préliminaires de la Coupe de la Confédération. Le destin paie lui, juste à l'entrée de la phase des groupes. Mazembe et V-Club n'ont fait mieux qu'obtenir leur ticket pour la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF, cette instance du football africain qui, contre toute attente, a dépouillé le président de la FECOFA de toute son influence alors qu'il venait, en tant que président intérimaire, d'organiser les élections qui ont porté Patrice Motsepe à la tête de la CAF. Constant Omari Sélémani, puisque c'est de lui qu'il s'agit, sera poursuivi en interne et contraint de démissionner à la tête de la FECOFA, puis sanctionné par la FIFA, 12 mois loin de toute activité liée au football. Les calvaires du football congolais s'est poursuivi avec une fin de saison catastrophique avec ses 2 compétitions majeures, alors que les titres de la Lina Foot étaient presque acquis à cause d'une faute administrative sur le joueur Matutala. L'ASV Club s'est vu retrancher 9 points et céder les titres au tout puissant Gleber Mazembe, qui au passage a récupéré 3 points du match perdu face à Dauphin Noir afin de consolider son sacre. Situation qui a coûté une suspension de 6 mois au président de la Lina Foot, Bosco Mwehu. Et pour couronner l'épilogue de cette saison 2020-2021, la FECOFA invente une formule de la 56e Coupe du Congo de football qui a récupéré plus d'un meilleur perdant, dont l'un, en l'occurrence, Sangabalende, s'est incliné, battu 1-0 par le dernier Clem Otema Pembe au terme d'une finale inédite puisque interrompue, puis tirée en longueur à cause des incidents entre supporters des 2 clubs. Kinshasa, Valdo Simon Yamba, VOA Afrique.
Merci, Valdo.
Merci, Yacouba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seydou Dia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le bureau de la Chambre haute du Sénat a levé lundi l'immunité parlementaire du sénateur Augustin Matata Ponyo. L'ancien Premier ministre et ministre des Finances du régime de Joseph Kabila est poursuivi pour une affaire de dédommagement des victimes de la zarianisation des mesures économiques prises en 1973 et 1974, expropriant entre autres les expatriés de leurs biens. Plus de 300 personnes ont été concernées par cette affaire qui a eu lieu alors que Matata Ponyo était à la tête du ministère des Finances. Son camp s'offusque et parle d'un complot. De Kinshasa, notre correspondant Patrick Lupika.
Ce lundi, 7 membres du bureau du Sénat ont pris part à cette réunion présidée par le président de la Chambre haute du Sénat, Modeste Batilukwebo. Après des échanges, les sénateurs ont voté pour la levée de l'immunité de l'ancien Premier ministre. Séance tenante, une copie du réquisitoire a été remise à Matata Ponyo, qui était accompagné de son conseiller, Maître Michel Chebele, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Peu avant cette décision, les bureaux avaient auditionné les procureurs généraux près la Cour constitutionnel Jean-Paul Mukolo. Le président du Sénat, Modeste Batilukwebo, insiste que tous les articles qui concernent les poursuites et la levée des immunités ont été respectés.
Alors, la justice estime qu'il y a des bénéficiaires de paiement du trésor public qu'on n'arrive pas à retracer et donc qu'on peut considérer comme des fictifs. Ils revenaient au bureau du Sénat parce que nous sommes en vacances, de pouvoir donner l'occasion au sénateur Matata d'aller présenter ses moyens de défense. Voilà pourquoi nous avons autorisé les poursuites.
Une autre question se pose. Les poursuites autorisées pour les dossiers de victimes de biens aérianisés peuvent-elles ouvrir une brèche pour des poursuites sur les dossiers Bukangalonzo, une autre affaire où Matata Ponyo est accusé des détournements de plus de 7 millions de dollars. Maître Willy Winga est avocat au barreau de Kinshasa Gombe.
Si les immunités ont été levées, l'ont été par rapport à un réquisitoire précis et partant, l'ont été par rapport à une infraction précise. Ne perdez pas de vue que poursuivi, le sénateur Matata demeure et reste encore sénateur, bénéficiaire de ses immunités, là où celles-ci ne sont pas levées.
Le camp Matata Ponyo crie au complot et à l'acharnement contre un challenger sérieux aux prochaines élections. Jérémy Chaloukoma, vice-coordonnateur de l'Alliance de Bassoali de la RDC à Libas.
Nous avons une justice vraiment à double vitesse. Aujourd'hui, nous assistons à un acharnement judiciaire contre les grands leaders des Bassoali. La mission ou l'objectif est d'éliminer toutes les personnes ou tout challenger qui puisse faire obstacle à la candidature prochaine de M. Félix et le battre à plate couture.
De son côté, l'ancien Premier ministre s'est dit prêt à affronter la justice lors d'un procès.
Depuis Kinshasa, Patrick Lupika, VO Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VO Afrique, 24h sur 24.
Inquiétude et interrogation en Haïti après l'assassinat du président Jovenel Moïse à son domicile privé tôt mercredi matin. Selon le premier ministre par intérim, Claude Joseph, l'attaque a été perpétrée par des hommes armés. Il a déclaré l'état de siège. La Maison-Blanche parle d'un événement tragique. Sur la situation sur place, Abdelrahman Dia a joint à Port-au-Prince le directeur de la radio RFM, Rothschild François Junior.
Le Premier ministre Claude Joseph a dit que c'est un commun de haut avec des gens qui parlaient espagnol, anglais, qui ont perpétré cet assassinat dans la demeure du président de la République et blessé la première dame de la République qui reçoit actuellement des soins. Et donc, c'est tout ce qu'il a dit. Il a annoncé que, le président est décédé, mais on ne peut pas tuer ses idées et que les auteurs de cet acte seront arrêtés et punis conformément à la loi.
Comment est-ce possible? La résidence privée du président n'était pas assez bien protégée?
C'est la grande question que l'on se pose, savoir comment un commando a pu peut-il entrer aussi facilement chez un président de la République et l'assassiner? Et effectivement, le président de la République, sa résidence privée se trouve dans les hauteurs, dans un endroit qui s'appelle Pèlerin 5. Donc c'est une rue. Donc je sais qu'il y a des agents de sécurité, il y a un avant-poste de police devant, et le président, il a toujours ses agents de sécurité avec lui, la garde de présidentielle. Donc on ne sait vraiment pas comment ça a pu-t-il arriver que ce commando a pu entrer si facilement chez le président de la République pour l'assassiner.
Et quelle est un peu la situation sur place? Il y a une certaine inquiétude. Comment est-ce que les populations réagissent?
Bon, il y a une grande inquiétude concernant ce qui s'est passé. Les rues sont un peu vides, tout le monde a peur sur ce qui s'est passé. Même si le Premier ministre Claude Joseph a déclaré que la situation est sous contrôle, il a décrété l'état de siège sur toute l'étendue du territoire national et annoncé que la police nationale fera son travail. Mais il y a beaucoup d'appels qui sont lancés à l'endroit de la police nationale pour qu'elle puisse assurer la sécurité des vies et des biens. Il faut dire que ces appels viennent aussi de la part des membres de l'opposition qui ont condamné cet assassinat et qui ont demandé à la police d'assurer la sécurité des vies et des biens et de lancer un appel au calme à l'endroit de cette population.
Alors sur le plan purement institutionnel, donc c'est le Premier ministre qui assure l'intérim, c'est ça?
Oui, le Premier ministre assure l'intérim, bien sûr, avec le Conseil des ministres et donc suite à l'assassinat du chef de l'État, Jovenel Moïse. Mais il faut dire qu'il y a un grand problème au niveau des institutions. Le président de la Cour de cassation, donc il est décédé récemment des suites du coronavirus. Le Sénat de la République fonctionne avec seulement 10 sénateurs. Il y a un grand problème institutionnel en Haïti. Il y a beaucoup de questionnements concernant ce qui pourrait se passer sur le plan constitutionnel suite au décès du président de la République. Tout ce qu'on sait, c'est que le Premier ministre Claude Joseph, qui lui, pratiquement, a démissionné parce qu'il devait être remplacé par un autre Premier ministre qui a été nommé cette semaine par le président de la République, Ariel Henry. Donc il a dit que lui, il a assuré l'intérim avec le Conseil des ministres. Que, bien sûr, il y a un peu de flou. Beaucoup de gens se posent la question à savoir qui pourrait devenir président de la République suite à l'assassinat du chef de l'État, Jovenel Moïse.
C'était le journaliste Rothschild François Junior. Toujours en Haïti, gouvernant par décret depuis janvier 2020, sans parlement et alors que la durée de son mandat faisait l'objet de contestations, Jovenel Moïse avait également mis en chantier une réforme institutionnelle. Un référendum constitutionnel initialement prévu en avril, reporté une première fois au 27 juin, puis à nouveau en raison de l'épidémie de COVID-19, devait se tenir le 26 septembre. La réforme avait pour but de renforcer les prérogatives de l'exécutif. Haïti est gangréné par l'insécurité et notamment les enlèvements contre rançon menés par des gangs jouissant d'une quasi-impunité. Une situation qui valait à Jovenel Moïse, accusé d'inaction face à la crise, d'être confronté à une vive défiance d'une bonne partie de la société civile. Pour en parler, Nanit Talani a joint Ruben Jonem, activiste et chercheur d'origine haïtienne, joint à Minneapolis, dans le Minnesota, ici aux États-Unis.
Tout à fait. En raison de ce climat sociopolitique qui existe dans le pays depuis bientôt quelques temps, les forces de l'ordre, la justice, n'ont fait aucune intervention dans les cas de kidnapping, dans les cas de meurtre et dans les cas d'enlèvement. Donc, le fait que l'administration ne disait pas mot sur tout ce qui s'est passé, même les manifestations, le silence de l'administration a créé l'atmosphère qui présageait l'événement. C'est quand même étonnant, mais on pouvait quand même le prévoir.
Peut-on dire que cette tragédie est liée aux récentes manifestations et à l'insécurité dans le pays?
C'est tout à fait lié. C'est en fait le résultat, c'est le point culminant du climat sociopolitique qui existait en Haïti depuis près de 10 ans maintenant. Mais avec l'administration de Jovenel, le silence que les instances étatiques ont créé les conditions de possibilité de l'assassinat de n'importe qui, que ce soit le président, que ce soit un prêtre, que ce soit un vendeur ambulant dans la rue. Donc, il n'y a presque aucune raison pour ce qui a trait aux gangs, aux bandits professionnels, d'avoir aucune sorte de crainte, parce qu'ils opèrent normalement sans souci.
Mais là, il s'agit quand même d'un chef d'État qui est censé être protégé. La personne la plus protégée du pays, c'est lui.
Tout à fait, mais le fait que les opposants, les bandits de profession et les mercenaires sont tous au courant de ce climat d'insécurité qui existe dans le pays, donc qui sait si son garde-corps n'a pas été infiltré par des gens de l'opposition. Donc, moi je dis, il y a quand même une sorte de complicité parce qu'il n'y a pas eu d'échange de feu, d'armes à feu, entre les gardes-corps présidentiels et les assaillants. Ils ont pu pénétrer l'enceinte de sa maison sans aucune forme de résistance.
Ruben Jonem, activiste et chercheur d'origine haïtienne, joint à Minneapolis dans le Minnesota, ici aux États-Unis.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'administration Biden a annoncé mardi l'envoi de millions de doses du vaccin Moderna destiné au Guatemala et au Vietnam. Il s'était déjà engagé la semaine dernière à donner 4 millions de doses à l'Indonésie, mais dans l'ensemble, les États-Unis n'ont pas atteint leur objectif qui était d'envoyer 80 millions de doses au pays dans le besoin avant la fin du mois de juin. Notre correspondante à la Maison-Blanche, Patsy Widakuswara, revient sur les défis auxquels sont confrontés les États-Unis pour aider à vacciner le monde. Le récit avec Yacouba Ouedraogo.
Deux pays recevront des dons de vaccins américains cette semaine, a déclaré mardi l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki.
Le Guatemala et le Vietnam recevront des doses de vaccins anti-COVID de l'administration Biden-Harris. Le Guatemala recevra 1,5 million de doses de Moderna et le Vietnam recevra 2 millions de doses de Moderna.
Alors que les Indonésiens se préparaient à une augmentation du nombre de cas et faisaient la queue pour leur injection la semaine dernière, l'administration Biden a aussi promis au pays 4 millions de doses du vaccin Moderna à expédier via COVAX, le mécanisme de l'ONU pour le partage des vaccins, dès que possible. Les États-Unis se sont engagés à faire don de 580 millions de doses dans le monde. Mais ils n'ont pas atteint leur objectif d'envoyer 80 millions de doses d'ici fin juillet. Psaki, attaché de presse de la Maison-Blanche, revient sur les défis.
Parfois, nous devons surmonter des obstacles juridiques. Nous devons surmonter des obstacles réglementaires. Il y a des problèmes en ce qui concerne le matériel nécessaire pour distribuer ces vaccins et il y a aussi des problèmes de transport avec la réfrigération nécessaire. Nous avons donc remarqué que même si nous allions toutes ces doses comme nous nous y sommes engagés, cela tient en partie au fait que les pays doivent être prêts à le recevoir.
Le défi commence par la détermination du vaccin approprié. La plupart des stocks disponibles aux États-Unis se composent de Pfizer et Moderna, qui nécessitent un stockage ultra froid que tous les pays ne sont pas prêts à gérer. Krishna Udayakumar est le directeur fondateur du Centre mondial d'innovation en santé.
Une fois qu'ils y sont arrivés, nous devons savoir quelle est la date d'expiration de l'eau que nous avons envoyée. Nous devons savoir, au niveau du pays, s'il existe une autorisation réglementaire pour l'utilisation de ce vaccin particulier et l'importation de ce lot particulier. Et ce n'est vraiment que le début. Nous devons ensuite nous assurer que les vaccins peuvent être stockés au froid jusqu'au dernier kilomètre, que la main-d'œuvre est prête, que les vaccinateurs sont formés et qu'ils peuvent sortir.
Les pays bénéficiaires doivent aussi coordonner avec les différents vaccins qu'ils reçoivent d'autres fournisseurs, notamment COVAX, la Chine et la Russie. Cela nécessite beaucoup de planification et une gestion compliquée de la chaîne d'approvisionnement. Krishna Udayakumar, directeur fondateur du Centre mondial d'innovation en santé.
Il ne devrait pas être surprenant que l'expédition de vaccins soit compliquée d'un point de vue logistique. Et nous sommes en retard. Nous aurions dû travailler là-dessus il y a 6 mois.
Il y a aussi le fait que la plupart des doses de vaccins vont simplement aux pays riches. Joe Biden, président des États-Unis.
D'ici la fin de cette semaine, nous aurons atteint la barre de 160 millions d'Américains complètement vaccinés.
Jusqu'à présent, les États-Unis n'ont expédié qu'environ la moitié des 80 millions de doses qu'ils avaient l'intention de distribuer d'ici fin juillet.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée, à l'écoute.